les semences buissonnières en escapade à la Martre près de Castellane. En occitan, longomaille signifie que ça dure longtemps. C'est le nom qui a été donné au mouvement coopératif agricole, dont les premiers membres se sont installés en 1973 à Limans, non loin de Fort-Calquier. Dans un esprit d'autosubsistance, la communauté entreprit notamment de développer un grand jardin qui mit très vite en évidence la question de la qualité des semences. Très contraignante et restrictive, la réglementation européenne exige l'utilisation de graines figurant dans un catalogue qui impose qu'elles soient distinctes, stables et homogènes. Il en résulte que 80% des semences potagères sont des hybrides et que les variétés anciennes tendent à disparaître. Les membres de Longomaille se sont alors orientés vers un apprentissage du savoir-faire ancestral grâce au soutien de l'association Cocopelli. Depuis, pour diffuser et perpétuer ces différentes variétés, ils se rendent sur les marchés ou les foires et partagent leur collection de graines anciennes avec la population. L'association a réalisé récemment un support pédagogique de 4 DVD intitulé « Semences buissonnières ». Lors d'une conférence à la Martre, Martina Widmer, co-réalisatrice de ces films, a exposé la méthode de cet outil. Dans ce reportage, elle en évoque la philosophie et le contenu. Martina Widmer.
Il existe actuellement plusieurs livres où on peut apprendre à faire ces graines, mais il nous semblait qu'un support vidéo, des images qui montrent comment on peut aller de la graine à la graine, avec tous les gestes qui sont liés à ça, c'était un réel manque. Donc il y a 3 ans, on s'est décidé de réaliser des petits modules où on montre comment on fait de la semence, pas à pas, de la graine à la graine. C'est des vidéos. Et pour finir, on a pris 3 ans pour réaliser ça, pour montrer pour 32 légumes comment faire les graines. Et c'est devenu 4 DVD et 7 heures de 40 films, toujours d'une 10-15 minutes de longueur. C'est des films pédagogiques qui sont chapitrés. Pour chaque légume, on montre d'abord de quelle famille botanique elle fait partie, parce que c'est la base de la production de semences. C'est ce qui permet aussi de savoir avec quel autre légume ça peut se croiser quand un porte-graine est en fleur ou pas. Ensuite, dans ce chapitre, on montre aussi la grande diversité qui existe. Si on prend le cas de la tomate, il n'y a pas seulement des tomates rouges, mais il y en a aussi des jaunes, des oranges, des blanches, des violettes, etc. Et cela pour tous les autres légumes aussi. Ensuite, on montre la pollinisation, parce que il existe différents types. Il y a des plantes qu'on appelle autogames, qui arrivent à faire la pollinisation toute seule à l'intérieur de la fleur. Mais il y en a d'autres qui ont besoin de vecteurs, comme le vent ou les insectes. Dans ce chapitre, on montre ça. Ensuite, on montre le cycle de la vie d'une plante. Il y a des plantes qui sont annuelles. Ça veut dire que dans une année, ils arrivent à aller de la graine à la graine. Mais il y en a d'autres qui sont bisannuelles, qui prennent 2 ans, avec une période d'hiver au milieu. Là, on montre comment la plante évolue du semis jusqu'à la récolte des graines. Et la quatrième partie, c'est la question de l'extraction, du nettoyage et du stockage de la semence. Il y a beaucoup de petites astuces qui sont importantes pour extraire, nettoyer, pour faciliter ce travail qui peut être assez laborieux quand on ne connaît justement pas tout ça.
Contrairement à Cocopelli qui vend les graines, vous, en choisissant de vendre un savoir-faire, vous ne prenez pas de risque de procès avec les multinationales?
Non, parce que le savoir, on peut encore le diffuser librement.
Il y a des lois qui sont en route pour interdire la reproduction des graines dans les jardins?
Il y a depuis plusieurs années, c'est régulé au niveau européen, une nouvelle réglementation qui doit être faite. Il y a eu énormément d'opposition de la part de plusieurs associations en France, mais partout en Europe, qui se sont opposées, mais très fortement, contre la dernière proposition qui a été faite au Parlement, si bien que le Parlement européen l'a refusée. Ça veut dire on repart à zéro et on attend qu'il y ait une nouvelle proposition qui soit formulée. Ce qu'on veut éviter, c'est que le cadre réglementaire devient encore plus restrictif pour toutes les variétés qui ne sont pas inscrites au catalogue. C'est le grand enjeu. Il y a d'un côté un cadre législatif qui est proposé pour toutes les variétés qui correspondent aux critères d'inscription de ce catalogue, mais qui ne correspond pas du tout aux variétés anciennes. On verra qu'est-ce qu'il va falloir faire pour être sûr qu'on pourra encore diffuser ces variétés-là.
C'est quand même très suicidaire de la part des législateurs d'autoriser par exemple le Roundup, de tuer les abeilles, de mettre la main sur le vivant. Qu'est-ce que vous en pensez ?
La question, c'est quel type d'agriculture on veut avoir. Pour le moment, les grands pôles d'intérêt favorisent tout ce qui va vers l'agriculture industrialisée et une agriculture fermière plus proche des gens, qui utilise moins de produits toxiques, c'est vraiment le parent pauvre. Tous les moyens de la recherche vont vers le développement de l'agriculture industrielle. On enlève en fait le savoir-faire, toutes les pratiques qui ont été transmises de génération en génération. Tout ça, c'est pas du tout favorisé. C'est dangereux parce que cette agriculture industrielle, elle utilise des pesticides. On sait très bien que c'est très nocif pour la santé. On détruit les sols, on détruit les environnements, les bêtes aussi. Ils sont élevés dans des conditions qui sont complètement inacceptables. On respecte pas du tout le cycle naturel des animaux.
Comment envisagez-vous l'avenir ?
Ce qui me rend assez optimiste, à travers la diffusion de ce film, il y a beaucoup de gens qui essayent quand même d'aller à l'encontre de ça. C'est des petites initiatives qui sont créées à droite, à gauche, mais elles existent bel et bien, elles sont bien vivantes. Et on a eu énormément de retours de gens qui ont dit « mais enfin, on a quelque chose en main, c'est super, ça nous aide énormément ». On voit qu'il y a des pratiques qui vont à l'encontre d'agriculture industrielle.
Il y a eu beaucoup d'acheteurs de ce DVD ?
On a fait une première impression qui a été complètement vendue, donc on a fait une deuxième impression des DVD. La première version, elle existe en allemand, français, anglais, et on est en train de faire une deuxième version en portugais et en espagnol, parce qu'on a eu des demandes de la part d'organisations paysannes en Colombie et au Brésil qui aimeraient bien avoir ça. Parce qu'en Europe, comparé à, par exemple, à l'Amérique latine, on trouve quand même encore ces variétés. Alors que là-bas, ils trouvent essentiellement que des variétés hybrides. Et il y a des mouvements, justement, qui veulent maintenir leur propre patrimoine et ils n'ont pas les possibilités pour le moment. Ils n'ont plus le savoir-faire.
On sait qu'il y a des petits groupes qui ont conscience et qui agissent autrement, mais est-ce que vous pensez que l'opinion publique rentre en conscience également ?
Ça fait maintenant quelques années qu'on va sur ces foires et marchés avec nos graines et on se rend compte que, notamment aussi avec le cas de Cocopelli, il y a vraiment eu une prise de conscience de ces questions-là. Les gens, ils sont bien au courant qu'il y a un réel danger de perte de biodiversité, de destruction de l'environnement. Quelque chose qui a aussi fait beaucoup réfléchir, c'est la question des crises alimentaires qu'il y a eu dans les dernières années où les gens ils prennent conscience qu'en fait, on n'est pas du tout sûr de la qualité de ce qu'on mange.
Donc optimiste quand même.
Carrément, oui. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de jeunes personnes qui cherchent à faire autrement. C'est clair que c'est minoritaire, mais ça donne toujours des impulsions à partir de ces groupes-là et c'est ça qui est intéressant.